du XVIe siècle. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux autres cycles qui vont suivre, dont le prochain va commencer dès la semaine prochaine, si je ne m'abuse d'ailleurs.
Oui.
Hein, consacré, si je ne m'abuse aussi, à la restauration du patrimoine. Hein. Nous travaillons sur tout à fait autre chose à partir de la semaine prochaine. Mais là, il s'agit donc de travailler sur, de terminer le travail, si j'ose dire, sur la peinture en Italie au 15e et 16e siècle. Alors, on est allé à Rome, on est allé à Florence, nous sommes allés à Venise. Nous avons également, la dernière fois, divagué un peu dans toute l'Italie pour voir plein de choses. On a vu beaucoup de choses. On n'a pas tout vu. On n'aura d'ailleurs pas tout vu non plus aujourd'hui, je vous rassure. Mais j'avais envie, aujourd'hui, que nous nous intéressions, et je passe très vite sur nos petites règles habituelles, que nous nous intéressions en deux temps à un domaine que l'on affirme on peut explorer, sinon que nous sommes allés à Rome, c'est-à-dire la peinture murale. On a vu beaucoup de peintures indépendantes, beaucoup de peintures de chevalet, comme on a l'habitude de dire, mais des peintures murales assez peu, à part celles de Michel-Ange ou Raphaël que nous avons évoquées. Or, il y a un certain nombre de peintures murales vraiment immanquables, hein, des choses essentielles pour cette évocation de la peinture en Italie au 15e et 16e siècle. Alors, le premier chapitre de cette séance, qui va en compter deux, va nous permettre de voir cinq peintures murales très très célèbres, hein, qu'il faut vraiment connaître si on s'intéresse à cette période-là. Et je pense que vous connaissez sans doute certaines d'entre elles, et surtout certains des auteurs, hein, qui en sont les auteurs, justement. Alors, on va commencer par une première, et alors là, c'est, si j'ose dire, un grand classique, et je pense que vous connaissez ça. Alors d'abord, on ne va pas aller vers l'auteur, parce que là, c'est trop facile, quand même. Mais le sujet, qu'est-ce que représente cette peinture en question? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente? Et comme d'habitude, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Prenez le temps, hein, on vient seulement de commencer.
Merci,
On n'est pas en retard. Voilà. Oui, qu'est-ce que ça représente, hein? Ce que vous voyez là est donc un détail d'une peinture murale qui est plus importante, mais je n'allais pas vous montrer tout. Et cette peinture murale, que représente-t-elle? Est-ce que vous avez... D'abord, qu'est-ce que vous voyez? Encore une fois, commençons méthodiquement. Hein. C'est qu'on a essayé dans ces séances de travailler avec méthode et de voir, avant de foncer sur le sujet, de voir d'abord ce qui pouvait être représenté. Qu'est-ce que vous voyez là? Pardon?
Deux parties.
Alors, qu'est-ce qui se passe à gauche? Qu'est-ce qui se passe à droite? Pardon?
Une jeune fille qui est présentée.
Alors, à gauche, une jeune fille. Enfin, il y en a même plusieurs. Alors, il y a une jeune femme agenouillée, effectivement, et puis
Elle est accompagnée
d'un certain nombre d'autres, nous pouvons peut-être dire. Hein. Bien. Donc, il y a une jeune femme agenouillée, accompagnée d'autres jeunes femmes, très bien. Ça, c'est dans la partie gauche. Et dans la partie droite,
des notables.
Pardon. Un mariage peut-être, c'est-à-dire qu'on aurait une femme ici en blanc. Oh là là. Une femme en blanc ici, et là un homme, donc on dirait un mariage.
Hein. Okay.
Et donc autour de ce couple, entre guillemets, un certain nombre de notables qui assistent à la scène. Bien. Donc un groupe de femmes, dont une agenouillée qui prie à gauche. Et une scène avec des notables et au centre ce qui ressemblerait à un mariage. Ok? Bien. Vous caractériseriez comment cette peinture? Qui est une peinture murale et qui est précisément une fresque. Est-ce que toutes les peintures murales sont des fresques?
Non.
Non. Hein? On est d'accord, on en a déjà parlé une fois. Hein? Les fresques sont peintes à fresco, à frais, c'est-à-dire sur un enduit frais, mouillé, ce qui n'est pas le cas d'autres peintures murales qui peuvent être faites sur un enduit à seco, à sec. Là, c'est bien une fresque. Oui, comment vous caractériseriez la manière du peintre qui a réalisé tout cela?
Il y a beaucoup de détails.
Oui.
Beaucoup de couleurs.
Oui.
Il y a une harmonie.
Oui.
C'est ordonné.
Très ordonné. Mmh. Très, très ordonné. Mmh. Beaucoup de détails, oui, mais quand on voit certaines des peintures qu'on a vues les fois dernières, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a tant de détails que ça. Hein ? Une ordonnance, oui. Alors, il y a des détails, oui, c'est pas un carré noir sur fond noir, hein, mais c'est quand même surtout, effectivement, très ordonné, très organisé. Il y a autre chose, moi, qui me...
Très statique.
Pardon ?
Statique.
Très statique, hein, très très statique. Pardon, hiératique, très hiératique. Dans l'organisation, vous voyez par exemple qu'on a une espèce de frise et au-dessus, il n'y a rien. Hein, c'est-à-dire que la partie inférieure est pleine, la partie supérieure, il n'y a rien. Et effectivement, la partie inférieure est très hiératique, une sorte de frise avec des personnages, tout ça est organisé, hiératique, etc. Hein, bien. Alors, si on va un petit peu loin au niveau du sujet, est-ce que certains d'entre vous savent ce que ça représente ?
Mais les deux parties sont liées.
Les deux parties sont liées, effectivement.
La partie extérieure, les deux...
Pardon, alors effectivement, il y a une partie intérieure, une partie extérieure. Hein. Les deux parties sont liées, mais est-ce que c'est le même moment ? Est-ce qu'au même moment, il se passe ça et ça, côte à côte ?
Non. C'est une histoire.
Voilà, c'est une histoire. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est avant, ça, c'est après, ou bien ça, c'est après. Ça... Enfin bref, c'est deux moments d'une histoire, effectivement. Hein. La femme... Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que la femme agenouillée ici est la même que celle-là. Il y a un petit détail qui permet de l'envisager, d'ailleurs.
Le chignon.
La coiffe, hein. Chignon, je ne sais pas, on ne le voit pas, mais la coiffe. Hein. Il y a une coiffe, effectivement. Hein. La coiffe est la même, effectivement. Bien. Alors, une idée, peut-être. Le mariage de la Vierge. Ce serait une idée, ça. Sauf qu'un mariage de la Vierge, on l'avait déjà vu, il y a un détail qui n'apparaît pas là. Ce serait lequel ?
Un bâton.
Oui, absolument. Hein, vous rappelez le mariage de la Vierge ? Les prétendants de la Vierge sont généralement représentés avec des bâtons, mais sans rien. Souvent, d'ailleurs, ils les cassent, parce qu'il avait été dit que, on en avait parlé quand on l'a vu, hein, que le promis à la Vierge, hein, Saint-Joseph en l'occurrence, a vu fleurir son bâton, et ceux qui n'ont pas vu fleurir le bâton n'étaient pas promis à la Vierge, donc ils cassaient leur bâton, etc. Là, il n'y a pas de bâton, donc pas de mariage de la Vierge.
Une consécration.
À une consécration, par exemple.
Une femme qui est consacrée à un temple, à une divinité.
C'est ça, oui, donc ça pourrait être, je sais pas, effectivement, quelques vestales, par exemple, qui est consacrée à quelques dieux. Hein. C'est une idée,
mais... est-ce qu'il y a un mariage entre
les deux femmes,
ça
ne
va pas.
La présentation d'une femme à, je sais pas, un roi, un prince...
Alors, effectivement, c'est plutôt ça. C'est plutôt que la consécration d'une femme à un grand destin, on va dire, c'est plutôt une présentation, une rencontre, de deux personnages, une femme et un homme.
Ce qui est curieux,
est-ce que vous pensez... Oui.
Ce qui est curieux, c'est qu'elle se penche, on ne sait pas devant quoi.
Oui, alors, elle se penche devant quoi ? C'est une bonne remarque, ça.
Pardon ?
Elle est devant son futur mari. Quelle bonne idée ! Quelle bonne idée. Parce que effectivement, elle est là, agenouillée devant un mur, en gros. C'est quand même très étrange, ça.
Non, sur les colonnes, apparemment.
Pardon ?
Elle prie.
Elle prie. Donc elle prie devant, comme ça, devant le ciel, quoi. Hein ?
Hein ?
Ah, la Vierge avec son manteau rouge. Enfin, il est bleu plutôt. Hein. Ça pourrait, mais ce n'est pas la Vierge.
La personne en blanc a une position inclinée.
Oui, elle a une position inclinée. C'est ce qui d'ailleurs souligne cette idée de rencontre. Hein. C'est-à-dire que c'est plutôt elle qui est reçue chez lui. Elle est effectivement inclinée. Il y a une sorte de déférence. Ce n'est pas l'inverse. Hein. C'est en effet elle qui est reçue. Lui, il le reçoit, il reste droit. Elle est reçue. Il y a donc une position de déférence, effectivement. Donc on a à gauche cette femme qui prie le ciel devant rien, puisqu'elle prie là-haut, quoi. Et à droite, quelqu'un qui est présenté, une femme qui est présentée donc à ce monsieur, entre guillemets.
Si c'est la même, c'est en deux temps. Ça,
c'est en deux temps.
Déjà,
oui.
Et voilà. Après, j'avais les plus âgés.
C'est ça, c'est effectivement deux temps. Alors, il n'y a peut-être pas 50 années entre les deux, quand même. Hein, mais c'est effectivement en deux temps. Hein. Est-ce qu'il prie vraiment devant rien ? Est-ce qu'elle prie vraiment devant rien ?
Il y a deux tableaux.
Regardez bien.
Il y a de l'eau, il y
Il y a à droite un bâtiment. Elle prie devant le temple. Mais à vrai dire, on l'a un peu dit tout à l'heure, le temple est plutôt, grâce à l'idée subtile des colonnes, quelque chose qui permet de dire là c'est une scène et là c'en est une autre. Hein. Donc là, la scène s'arrête là et là, la scène commence là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la colonne n'est plus là pour dire il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose à l'extérieur. Donc le temple, j'allais dire, le bâtiment du moine ne fait pas partie de cette scène-là. La colonne est là pour séparer les deux. Elle prie devant quoi?
Il y a deux tables devant, un muret, c'est de l'eau, des cercueils.
Elle prie devant des cercueils ou de l'eau. Vous voyez de l'eau?
Il y a de l'eau, oui, on met plein d'eau derrière.
Il y a des cercueils.
Ah.
Derrière.
Oui. C'est plutôt, à vrai dire, les dalles qui sont le socle des colonnes qui sont là, à mon avis. Hein.
Il y a deux cercueils.
Donc elle prie devant des cercueils. C'est du bois. C'est effectivement du bois. Là, vous avez raison. Par contre, là, vous n'avez pas raison, c'est que ce ne sont pas des cercueils. D'ailleurs, ce ne sont pas des cercueils.
Des reliques.
C'est pas non plus un cercueil, mais c'est un seul élément.
Ah oui, c'est l'ombre.
C'est l'ombre. C'est l'ombre de la femme qui a l'air de faire
séparer les deux.
C'est l'ombre. En fait, elle prie devant un élément. Un autel. Ce serait un gros autel en bois, alors, parce que vous avez dit que c'était du bois, je vous ai dit que c'était le cas. Elle prie devant un gros autel en bois. Ça ressemble à ça, les autels?
Non.
Pas trop, hein. Donc, évidemment, l'idée est bonne, mais c'est pas vraiment un autel. Qu'est-ce que ça peut être, ce gros? Eh ben, voilà. Ce gros bout de bois... C'est un morceau de la croix. De la croix.
Ah.
Pas une croix. De la croix. La croix de qui? La croix du Christ. Alors, qui peut être cette femme qui...
Sainte Hélène.
Alors, ça pourrait être Hélène. Pourquoi ça pourrait être Hélène?
Parce que c'est elle qui a trouvé la croix.
Parce que c'est elle qui a trouvé la croix. Donc, ça pourrait être Hélène qui se recueille devant un morceau de la croix. Problème, ça n'est pas Hélène. Je suis contrariant. Alors, qui ça peut être? Ça, faut savoir, c'est pas évident. Je vous donne la solution?
Oui,
parce que ça se devine pas. Pardon, un personnage biblique.
C'est la reine de Saba.
Eh ben oui, absolument. C'est la reine de Saba. D'ailleurs, la représentation de droite, c'est quoi, à votre avis? Voilà. C'est la rencontre de Salomon et de la reine de Saba. Vous savez, grande rencontre biblique, hein, une des grandes rencontres de la Bible. Hein. Évidemment, vous aviez bien vu que ce personnage recevait une femme qui... Parce qu'une légende veut que dans la Bible, enfin dans l'Ancien Testament, la reine de Saba ait eu l'occasion, un jour, de rencontrer, entre guillemets, des poutres de bois, et elle a eu la révélation que ces poutres allaient servir à réaliser la vraie croix. La croix du Christ. Et s'en est d'ailleurs ensuite ouvert à Salomon dans la rencontre qu'elle a eue avec lui. Donc vous avez là, effectivement, la reine de Saba qui prie devant une poutre de la vraie croix et qui ensuite va voir Salomon. Bien, donc vous avez effectivement vu ce dont il s'agissait. Maintenant vous connaissez l'auteur, je pense, en tout cas pour certains d'entre vous.
Hein.
Voilà, Piero della Francesca, œuvre très typique de Piero della Francesca. Hein. C'est un des chefs-d'œuvre de lui. Hein. Et vous avez bien décrit, je crois, son style, ce côté très organisé, très ordonné, très hiératique, ce chromatisme assez harmonieux, assez doux. Hein. Je crois que vous l'avez bien décrit, une espèce d'organisation, cette sorte de symétrie. Vous savez où ça se trouve, ça?
À Rezzo.
Voilà.
Rezzo.
Voilà. On est là dans la basilique Saint-François d'Arezzo, on s'appelle Banchi, et c'est donc un détail de cette peinture. Alors, la peinture en question qui a été réalisée au milieu du XVe siècle, hein, la peinture en question n'est qu'un détail d'un décor beaucoup plus important. Hein, mais l'idée aujourd'hui n'était pas forcément, du moins pour ça, de voir tout. Je vais vous montrer quelquefois plutôt des détails qu'autre chose. Et donc c'est une peinture bien plus importante. Je vous montre ici le déroulé complet de la chapelle Bacci à Rezzo. Alors ce que l'on a vu, vous repérez, c'est là. Hein.
Ouais.
Là hein. mais il y a d'autres scènes toujours autour de la question de la croix, notamment la rencontre, si vous voulez, de Hélène et de la croix. Hein. Voilà. Donc c'est un cycle, si vous voulez, autour de ça. Et il y a notamment cet épisode plus ou moins légendaire hein, de la rencontre de la reine de Saba et de la croix. D'accord. Donc ça, on n'avait pas du tout parlé de Piero da Francesca, peut-être parce que aussi c'est un artiste très célèbre. Mais enfin, il était important, évidemment, de lui faire une place dans ses séances. Un autre décor ? Alors, qu'est-ce que ça représente ? D'abord, comme d'habitude, on commence par voir ce qu'on a sous les yeux. Qu'est-ce qui est ici représenté ? Des guerriers ? Un cortège, effectivement. On a un cortège. Un cortège guerrier ?
Non.
Pardon ? Un cortège d'apparat. Hein, un cortège d'apparat. On a effectivement un très beau cortège d'apparat, n'est-ce pas, qui défile devant nous. Très bien. Un cortège de quel genre ? C'est-à-dire que quel type de cortège, quel pourrait être peut-être le sujet de cette peinture ? Une entrée triomphale dans une cité, peut-être ? Oui, à Florence. On se dirige peut-être vers la ville qui est là-bas dans le fond, ou une cité qui serait sur la droite. Oui. Oui. Donc on a un cortège triomphal de gens qui se dirigent vers une cité, par exemple.
Hein, on a l'impression qu'ils s'en vont plutôt.
Est-ce qu'il s'agit ou ils s'en vont ? Au contraire, ils partiraient de la ville qui est dans le fond. Oui, ils partiraient plutôt, voilà. Bien. Marqué, on part toujours d'un lieu pour aller dans un autre. Mais bon, en tout cas, ils sont en chemin. Hein. Qu'est-ce que vous auriez d'autre à dire sur cette peinture avec ce cortège et ces nombreux personnages ?
Je trouve que la montagne est un peu bizarre.
Une montagne un peu bizarre, oui. D'ailleurs, des montagnes bizarres, on en a vu, rappelez-vous, Léonard de Vinci, hein, vous rappelez, dans la Vierge au Rocher.
Hein. C'est plus ancien.
Pardon ?
Ça, c'est plus ancien.
Alors, il y a un côté plus ancien, plus médiéval, absolument. Ça, c'est tout à fait juste. Cette peinture a un côté plus médiéval, plus ancien. C'est vrai. Hein ?
En tout cas, ils ne sont pas armés.
Ils ne sont pas armés. Donc, en effet, au départ, on avait un peu l'impression d'une armée en marche. Enfin, à cheval. Hein. Mais en fait, ils ne sont pas armés. Donc, c'est plus un cortège, effectivement, triomphal. Pas vraiment de soldats armés. C'est peut-être des soldats, mais là, ils ne sont pas armés. Voilà, ce n'est pas des gens armés. Qu'est-ce que vous auriez encore d'autre à dire ? Qu'est-ce que vous suggère cette peinture ?
Un personnage important devant.
Un personnage important devant, effectivement, qui est particulièrement mis en valeur, qui a une sorte de couronne. Ici, un roi ? Un prince ? Même pas. Ni un roi, ni un prince.
Si,
vous voyez bien un roi quand même ? Bon.
Oui,
mais alors, quel genre de roi ? Pardon ? Un jeune roi. On aurait donc un jeune roi au premier plan.
Alors, il y a deux personnages en bas à droite qui tiennent quelque chose.
Il y a effectivement deux personnages ici qui tiennent des choses.
Qui doit être significatif quand même.
Qui peut être une signification. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis ? On a dit c'est un cortège, ok, mais se balader, c'est bien, mais enfin, on se balade pas pour se balader seulement, quoi, peut-être, je sais pas. Ah oui, peut-être. Ils prennent l'air un peu. On prend l'air.
Il y a une lumière, il y a une bougie.
Une lumière ?
La bougie, là.
Une bougie ?
Dans les deux personnages, il y en a un.
Il tient quoi ?
Ici, vous verriez une bougie.
Non.
Celui-là ?
Non, mais...
Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une bougie ?
Non, mais c'est...
Un moulin à prière.
Une lumière. Une lumière. Ah, une sorte de lanterne. Quelque chose qui flambe.
Un instrument de musique ?
Un instrument de musique ? Alors, on aurait donc un roi, alors les gens autour, un prince ou un roi, tout le monde n'était pas d'accord, hein. Mais enfin, un prince ou un roi, un haut personnage, quelqu'un a dit en tout cas, hein. Accompagné de gens, ces gens qui l'accompagnent, c'est qui ?
Des bonnets rouges.
Des bonnets rouges. Je crois que l'actualité s'invite dans nos séances.
Hein. Oui, c'est vrai.
Donc, un prince, un haut personnage, en tout cas, accompagné de quel genre de gens ?
De villageois notables.
De notables. Villageois, oui, des villageois un peu plus. Nous présentons d'une ville.
Il y en a beaucoup, hein, ça va loin.
Pourquoi, ah, pourquoi ils ont tous des chapeaux rouges ?
Parce que c'était à la mode. C'est très à la mode à cette époque, et notamment dans cet endroit-là. Bien. Est-ce que vous avez une idée de, pour l'identification du personnage au premier plan ou de ces personnages sur la gauche ? De qui s'agirait-il ? Charles Quint ?
C'est un Médicis.
Un Médicis ?
Ah oui, peut-être.
C'est en effet un Médicis. Et c'est en effet Laurent le Magnifique. Est-ce que c'est que Laurent le Magnifique ? C'est un roi mage. En fait, ce que vous avez ici, c'est une peinture qui est à double détente. C'est-à-dire ?
Et le cortège des rois mages.
Voilà.
Et la représentation de la famille de Médicis.
Voilà. C'est une double chose. C'est-à-dire qu'on est à la fois devant un cortège des rois mages, d'un roi mage et de sa cour, hein. Et en même temps, c'est effectivement un représentant de la famille Médicis avec justement sa cour. Hein. Et qu'est-ce que vous diriez justement par rapport à ces figures qui sont là, notamment, tout comme par rapport à ça d'ailleurs ? Voilà, ce sont des portraits. Hein. C'est-à-dire qu'on est là devant effectivement quelque chose qui représente les rois mages. Un roi mage, en l'occurrence, et son entourage, mais en même temps, les portraits d'un prince de la famille Médicis, plus de membres de la cour des Médicis, qui sont là représentés. Hein, beaucoup des figures que vous avez là, ce sont des portraits. Il y a même, semble-t-il, là, le portrait du peintre lui-même. Hein, celui qui a fait cette peinture. C'est qui, ce peintre ? C'est Benozzo Gozzoli. Hein. Benozzo Gozzoli, absolument, c'est un peintre qui a réalisé pour les Médicis la peinture que vous voyez là, qui en effet représente le cortège d'un mage. Alors, c'est dans une chapelle où il y a d'autres murs, et sur les autres murs, il y a les deux autres mages, hein, avec leur... Voilà, c'est tout, il y a tout un cortège, il y a les trois rois mages. Bon, parce que les conventions ont très vite établi que le nombre de rois mages était trois, bien. Il y a donc trois rois mages. Ben là, c'est l'un d'entre eux. C'est Gaspard. Hein, Gaspard, Melchior, Balthazar. Là, c'est Gaspard, mais qui est en fait Laurent de Médicis. En fait, ce que vous avez à gauche, c'est tout simplement des personnages qui amènent, vous savez, il y a l'or, l'encens, la myrrhe. Hein, ben c'est justement ces précieux éléments qui sont ici amenés. Ce que vous voyez, cet objet n'est pas une lanterne ou autre, c'est plutôt sans doute une boîte. Vous savez, ces pyxides qui étaient sur pied, dans lesquels on mettait des onguents ou des matériaux, entre guillemets, précieux. Hein. Je n'ai pas spécialement étudié ces deux personnages-là, mais je pense que ça, c'est ça. C'est-à-dire une de ces pyxides. Quelquefois, on voit, vous savez, quand des représentations du Christ au tombeau, on voit la Madeleine qui porte des boîtes de ce genre-là. Hein. Je pense plutôt que c'est ça. Bien.
Les bonnets rouges, c'est des représentants des corporations ?
Pas seulement, hein, parce que le personnage que vous avez juste derrière, qui est, si ma mémoire est bonne, le portrait du père de Laurent, ici, vous le voyez également, un bonnet rouge. Hein. Oui. En fait, c'est quelque chose qu'on trouve très très souvent dans la mode florentine de ce temps. Ces espèces de bonnets, j'allais dire un peu cloche, mais avec un haut bord, sont très très... Et notamment de couleur rouge, il y en a beaucoup. Bien, très bien. Donc, autre œuvre très très célèbre, hein, Benozzo Gozzoli, le cortège des mages. Troisième œuvre. Alors, qu'est-ce que l'on voit là ? Hein, on va, comme d'habitude, commencer par regarder, puis après on essaiera de voir, d'identifier un peu plus. Qu'est-ce qui est représenté là ?
Un
couple, une cour. Hein, un couple.
Avec des enfants.
Avec des enfants.
Une cour autour.
Une cour autour, donc un couple, des enfants, une cour autour.
Des gens
bien.
Qui viennent les visiter.
Et puis il y a
des gens qui viennent les
et il y a des gens qui viennent, des gens qui arrivent et que l'on accueille. Très bien.
Oui. Fait. On est dans un palais.
On est visiblement dans un palais. vais peut-être vous montrer la peinture qui est juste à côté. Ça vous va?
Oui.
Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas entendu.
Ça aide, hein?
C'est tout de suite plus clair.
On dirait que ça n'a rien à voir.
On dirait que ça n'a rien à voir. Alors, que voit-on quand même?
Des anges qui portent un tableau.
Soyez méthodique. À gauche. Voilà, on va commencer, hein, on ne va pas dans tous les sens. Voilà. Alors, à gauche, c'est ce qu'on voit.
Des chiens.
Alors, il y a en effet un cheval, des chiens.
Des personnages.
Voilà. Et on est dans un paysage. Hein. Au centre.
Une porte.
Alors une porte, mais ça, la porte, quel est son statut?
Réelle, enfin.
Voilà, la porte, elle est vraie. La porte, elle n'est pas peinte, c'est pas une fausse porte. Faut attention, là, enfin, parce que des fois, vous avez des choses fausses, hein, qui ont l'air vraies. Là, c'est une vraie porte, mais la peinture, ce qui est représenté, n'est pas vrai. Enfin, la peinture existe, mais la scène, non. Enfin, on se comprend. Donc, il y a une vraie porte, mais au-dessus de la porte, il y a les boutiques, et quoi d'autre encore?
Il porte quelque chose.
C'est oui,
porte,
c'est
bon. Il porte un tableau.
Oui, une table, en tout cas. Ce qu'on appelle une table, c'est-à-dire hein, plus qu'un tableau qui voudrait dire, un peu dans le langage, une peinture, vous voyez. Donc, une table, qu'est-ce qu'il doit y avoir, ou qu'est-ce qu'il y a pu y avoir dans cette table? Pardon? Des inscriptions, sans doute, hein, effectivement. Et il n'y a que ça dans la partie centrale. La vraie porte est au-dessus des poutis qui portent une table avec des inscriptions.
Il y a un
grand voile bleu.
Et deux personnages un peu coincés à gauche.
Et il y a deux personnages un peu coincés à gauche, ils ne sont pas seuls.
Avec des...
Voilà, ce qui veut dire quoi? Voilà, c'est la suite de ce qu'on a vu là. Hein. En fait, vous avez ici des sortes de pilastres dont on n'arrive plus très bien à savoir d'ailleurs quoi. Ben voilà. On ne sait plus s'ils sont vrais, pas vrais, etc. De toute façon, la porte, ben voilà que c'est une vraie porte, mais est-ce que les pilastres sont des vrais pilastres? On ne sait pas trop. Hein. Puis d'ailleurs, il y a d'autres choses qui viennent encore compliquer l'affaire.
Il y a le même chien. Là.
Voilà, alors il y a le même chien, parce qu'en effet, la scène qui est là, quelque part, se poursuit derrière. Hein. Bon, c'est-à-dire que le paysage qui est là se poursuit derrière. Ces pilastres, ils coupent un paysage qui est derrière, si vous voulez. Mais il y a quelque chose encore qui vient accentuer le problème du trompe-l'œil. Le rideau. Vous avez vu le rideau qui est là, hein? Et d'ailleurs, ça aussi, qui vient par-dessus la porte. Hein? Le rideau, qu'est-ce qu'il a de spécial, d'ailleurs?
Il est biface et enroulé.
Voilà, il est enroulé. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la tringle là, du rideau. Hein? On peut fermer le rideau, hein? Pourquoi d'ailleurs ça? Quel est le pourquoi faire tout ça? C'est quoi le but?
Un côté théâtral.
Théâtral, oui. Et puis
on dévoile une idée.
Il y a l'idée de dévoiler l'idée. On ouvre la scène. Hein, donc c'est effectivement le côté théâtral. On dévoile. On présente quelque chose. On découvre. Et puis il y a quelque chose à dire de plus philosophique derrière ça. Pourquoi faire ce faux rideau sur des faux pilastres au-dessus d'une vraie porte? C'est quoi le but? Ça avance qu'il y a une porte, le pote, je dis, bon, je vais essayer de bricoler mon truc.
Ben, la réalité et la fiction.
Ben voilà, c'est ça. C'est ça, espèce d'ambiguïté de la réalité et de la fiction. La peinture, c'est ça. Hein. La peinture, elle n'est pas vraie, mais elle veut être vraie, or elle n'est pas vraie. Donc l'idée là est de brouiller les cartes. Quand vous voyez ça, il y a un moment où vous dites, tiens, quelle est la réalité? Est-ce que la porte elle est vraie? Est-ce que c'est une porte feinte? Est-ce que dans certains cas, c'est tellement bien fait qu'on croit que la porte existe alors qu'elle n'existe pas? Ou l'inverse, hein? Et là aussi, les rideaux, est-ce qu'il est vrai, pas vrai? Voilà, l'idée est de brouiller les cartes. C'est en fait une réflexion sur la peinture. Hein? C'est essayer de nous montrer que là, on est devant quelque chose qui est de la peinture, mais qui est peut-être en fait une réalité, mais qui n'en est pas, alors qu'elle pourrait l'être, et qu'elle l'est peut-être quand même. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à droite?
Ces personnages sont avancés.
Il y a un enfant. Il y a
plusieurs enfants.
Ouais. Ouais. Alors on a effectivement une scène, mais donc on a au centre un prélat. Tout autour il y a des personnages. Devant il y a un enfant.
Un deuxième aussi.
Il y a plein de monde. Derrière, c'est le paysage qui se poursuit avec une ville. Hein. D'ailleurs, quel est, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnages, mais ils font quoi, là? Il se passe quoi?
Mais j'ai pas
Conversation, effectivement. Hein? Une conversation.
Une
présentation. Une rencontre, oui. OK. Très bien. Alors, je vais vous passer à un troisième élément de cet espace.
Ah oui. Ah, parce que... ah. Alors.
C'est le plafond.
Alors ça c'est le plafond.
Avec un faux trou probablement.
Donc il représente quoi? Avec
une fausse coupole.
Enfin, avec un trompe-l'œil, une fausse coupole effectivement. Et au milieu de la fausse coupole il y a ça. Et ça c'est quoi? On appelle ça comment d'ailleurs?
Un oculus.
Un oculus. Hein, ce qu'on appelle un oculus, un petit œil si vous voulez. Hein. Un oculus. Et qu'est-ce que vous voyez autour de cet oculus?
Des personnages.
Voilà. Il y a toute une série de faux personnages qui se penchent faussement.
C'est dangereux.
C'est un peu dangereux, oui. Et puis il y a... Oui, ah oui, oui. Ah ben, on pourrait tourner un peu... Quand on est dans la salle, on prend un peu le tournis parce qu'on tourne sur soi. On est un peu grisé, si j'ose dire.
N'est-ce pas un pan?
Il y a un pan. Il y a un pan. Oui, il y a un pan sur le bord. Et puis, en effet, toute une série de petits. Il y en a un qui est très amusant, vous avez vu, c'est celui-là.
Hein. Il a les ailes aux fesses.
Hein, celui-là, il est... Alors oui, on voit bien les fesses du petit, hein, enfin, du poutou. Hein. Et vous voyez, il est à l'intérieur hein, de l'oculus, enfin de la balustrade. Hein.
Il y a une tête, en effet.
Il y a des têtes.
Ah oui, oui, il y a deux autres poutis qui font les andouilles, là, qui passent leur tête à travers la balustrade. Là aussi, d'ailleurs.
Il y a pas une tête de poutis.
Ben, c'est-à-dire que je crois qu'il est un peu coincé par la balustrade, il commence à être un peu embêté. Quoi, hein, voilà. Quel est le but, là?
Pareil.
Tiens, on est toujours dans l'illusion. Hein, bien. N'empêche que vous ne m'avez pas dit... Alors, est-ce que je vais réussir à retourner en arrière? Oui.
Ah. Ah, voilà.
Donc, on revient là à la première scène... quel serait donc le lot commun qui nous permettrait de définir le style, la manière de ces peintures entre ces trois éléments qui décorent deux murs et le plafond d'une chambre qu'on appelle, vous l'avez dit tout à l'heure effectivement, la chambre des époux, hein, camera dei sposi.
C'est la famille.
Alors c'est la famille, hein. C'est évidemment une famille. Alors là vous voyez la famille. Il y a une chose que vous ne m'avez pas dite là.
Mais c'est un intérieur, mais enfin...
Oui. Oui, c'est effectivement un intérieur un peu extérieur. On est dans une sorte de loggia près d'un jardin, sans doute. Hein. D'ailleurs, le jardin semble apparaître dans les frondaisons derrière. Hein. Mais il y a un petit détail, c'est d'ailleurs le cas de le dire, qui est intéressant.
C'est le banc en premier.
Qui est devant, là.
Le banc devant.
Ça?
Oui.
Ce banc-là?
Oui, c'est curieux.
C'est le haut de la porte. C'est le haut d'une porte. C'est une porte dessous. Et, mais c'est amusant parce que décidément, vous voyez, vous pouvez avoir vous-même. Mais c'est bien, hein, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est décoré, pas peint, enfin réel. C'est le linteau de la porte qui passe dessous. Non, il y a un détail autre, intéressant. Une chose à laquelle on a déjà fait allusion, d'ailleurs, dans ces différents ateliers, je crois. À moins que ce soit dans d'autres ateliers que j'anime ailleurs. Je sais qu'au bout d'un moment, je confonds un peu. Oui, il y a encore un rideau, vous avez raison. Hein.
Oui, encore un rideau.
Et alors là, en plus, le rideau, il joue avec la vraie voûte, enfin, la vraie retombée d'ogive qui est là. Hein. Mais il y a un petit détail. Ouais.
Tiens, il y a un personnage sous le siège.
Ah oui.
Ah oui, c'est des nains.
Alors là, il y a un chien.
Ah, c'est un chien ?
C'est un chien.
Ah, oui, c'est
un chien. Calme, hein. Un chien. Mais autre chose auquel vous venez de faire allusion. Il y a un nain. Enfin, une naine. Elle est là. Hein ? Vous savez, on en avait peut-être parlé déjà avec vous, mais les nains, c'est très très important dans les cours princières.
C'est royal.
Voilà, c'est royal, c'est princier. Hein. Un prince, notamment au Moyen-Âge en Italie, ou à la Renaissance, a des nains. Alors, à votre avis, quelle est l'idée, quel est le but de cette série de peintures? Celle-là ou les deux autres qu'on a vues après? Alors, on a vu déjà des choses, hein. Il s'agit de rendre ambigu la réalité et la fiction. OK. Mais comment vous continueriez à définir à la fois ce qui est présenté, quelle est l'idée de cette représentation, qu'est-ce qu'on veut montrer, et de quelle manière on la représente ?
C'est la famille.
C'est la famille, la famille puissante.
C'est la magnificence de cette famille.
Voilà, très grande famille qui est capable d'avoir des nains, qui est capable d'avoir une sorte de palais tel qu'il est montré. OK. Et vous qualifieriez de quoi cette... enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous trouveriez d'autre comme mot pour synthétiser un peu le style de l'artiste, là ?
Moi, je trouve qu'il est terriblement moderne.
Ouais. Effectivement.
Ah oui.
Alors voilà, qu'est-ce que vous entendez par moderne ?
La facture, quand on voit les personnages notamment de droite...
Ouais.
Moi, je trouve que s'ils étaient isolés du contexte du paysage, où on voit...
On aurait du mal à savoir quelle époque, peut-être, voilà. C'est ça que vous voulez dire.
Voilà. Ouais.
Effectivement, on est là. Cette espèce de manière de pousser à bout le trompe-l'œil est quelque chose de très innovant à cette époque. Hein. C'est pas tout à fait la première fois qu'on le voit. On a vu d'autres exemples. Hein. Vous vous rappelez certaines choses qu'on a vues la fois dernière, en particulier. Hein. Mais on est quand même là... dans une sorte de scène de théâtre. Parce que, d'autant quand on est dans la salle, c'est quelque chose qui est très, très évident. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du prodige, hein, comme si les murs s'effaçaient devant une sorte de réalité qui ouvrirait les murs. Et c'est vrai aussi sur le plafond, vous vous en rappelez. Alors, certains d'entre vous savent sans doute qui est l'auteur de ça.
Mantegna.
Voilà. C'est Andrea Mantegna. Hein. Andrea Mantegna, c'est... un autre personnage, on n'en avait pas parlé jusque-là, mais il fallait évidemment en dire un mot. C'est donc une œuvre d'Andrea Mantegna, c'est la fameuse Chambre des époux. Là, c'est la peinture où on voit Louis de Gonzague, Louis III, si ma mémoire est bonne, de Gonzague, le marquis de Mantoue avec sa famille, hein, son épouse, ses enfants, sa naine, enfin la naine de madame d'ailleurs. Et là, c'est un autre épisode de la vie du même Louis de Gonzague avec ses fils, l'un était d'ailleurs prélat. Hein. Voilà. Et effectivement, ils vont aller sans doute à la chasse. Il y a donc un cheval qui est à prêter et des chiens. Quant à l'oculus, on en a parlé tout à l'heure. Je vous montre ici une vue générale, hein, de la chambre des époux. Hein, voilà. Alors, en fait, je vous ai dit que c'était une porte, mais c'est bien une cheminée. D'ailleurs, quelqu'un d'entre vous l'avait dit. Hein, une cheminée. C'est pas une porte. C'est plus bas. Voilà. Donc, très bel ensemble, effectivement, d'une très grande modernité. On est quand même très tôt. C'est à Mantoue, au Palais du Cannes. Hein.
Sur quelle année ?
On est dans la deuxième moitié du XVe siècle. Hein. D'accord ? Alors, quatrième site, une peinture importante que nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer jusqu'à présent. Alors là, c'est facile. Hein. Oui, le thème, c'est la résurrection. La résurrection. L'apocalypse. Parce que, pour moi, la résurrection, c'est pas ça. La résurrection avec un grand R, hein, c'est le Christ qui sort du tombeau. Hein. Là, j'ai beau le chercher...
C'est la fin du monde.
Alors, la résurrection des morts. Ce qu'on appelle la résurrection de la chair.
C'est la fin du monde.
Oui, effectivement, c'est la résurrection, voilà, la fin du monde, la résurrection de la chair. Hein. Oui, effectivement, hein, les morts, tout en squelette, qui sortent de terre, et puis qui s'enchérissent soudain. Et de quelle manière, hein.
Bon. Il y a les trompettes de la renommée.
Voilà, enfin, de la résurrection. Voilà. Bien. Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire sur une telle composition ?
C'est une chose rectiligne.
Oui, alors oui, il se passe beaucoup de choses. Hein. Il y a une sorte de composition en deux parties, une sorte de grande frise inférieure et une composition supérieure avec les deux anges, effectivement.
En bas des archanges, même. Des petits personnages, puis des grands anges.
Oui, 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 il y a effectivement une disproportion entre les mortels, on va dire, mais qui justement ne le sont plus, là, et les archanges. Hein. Oui.
Il y a un certain réalisme.
Ouais, un grand, grand réalisme. Hein. On est là vraiment... ça, c'est aussi un élément très important, hein, notamment de la Renaissance. Hein, une espèce de volonté incroyable du réalisme, et un réalisme anatomique, hein, qui est très insistant même, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Tout y est, hein, c'est très clair. Hein. Donc un très très grand réalisme, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de qui a fait ça? Et dans où ça se trouve?
C'est Luca Signorelli et c'est le tombeau de Dorée.
Bravo. Enfin, bravo. Ah, bravo. Ah, ben voilà. Enfin, quand même. Voilà, une œuvre très importante d'un artiste moins connu, mais qui est important, effectivement, Luca Signorelli. Et c'est bel et bien la cathédrale d'Orvieto, enfin, Duomo d'Orvieto. Hein. Oui, c'est une peinture de tout début, enfin, qui se termine au tout début du XVIe siècle. Voilà, très belle, très importante et très belle composition, hein, et qui, effectivement, avec toutes les caractéristiques que vous disiez, correspond bien à cette espèce de naturalisme de la peinture italienne du temps. Alors, on va voir un dernier exemple pour ce premier chapitre, que voilà. C'est chargé. Ah, il y a les colonnes du temple qui tombent. Hein, il y a du monde là. Hein. Un effondrement. C'est Samson. Donc Samson qui rappelait l'histoire peut-être. Voilà. Hein, Samson, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi ses cheveux ont poussé? S'ils ont poussé, c'est qu'ils ont été coupés.
Il était en prison.
Il était en prison. Qui est-ce qui l'a mis en prison? Et voilà, Dalila. Hein, Dalila avait en effet tout fait pour prendre Samson dans ses serres, si j'ose dire. Hein. Et Samson tirait, vous le savez, sa force de ses cheveux. L'heureux homme. Et alors Dalila lui a effectivement durant son sommeil coupé les cheveux, il a donc perdu sa force. On a enchaîné Samson sur une colonne et une fois que ses cheveux ont repoussé, il a pu faire écrouler le temple sur lui d'ailleurs et ceux qui l'avaient enjôlé. Ceux, c'est qui d'ailleurs? Samson, cette histoire se passe chez qui? Chez les Philistins. Hein, donc ce serait l'histoire de Samson qui fait s'écrouler le temple. Il est où Samson?
Il tire sur une colonne.
Ce serait lui alors. Bon, bah, tout ça. Et alors autour, c'est les Philistins. Il y a peut-être même Dalila, si on cherche bien.
Hein? Elle est au niveau de sa jambe.
Peut-être. Eh bien, ça n'est pas Samson. Mais je salue l'inventivité de l'assistance. Alors, il y a quand même des colonnes, il y a quand même un écroulement.
Voilà. Il y a quand même quelqu'un qui les écroule.
Il se passe quand même des choses.
Hein. Il a des cheveux longs. C'est
curieux, ce truc. Oui, effectivement.
Au-dessous, cette. C'est bizarre, c'est un trompe-l'œil, ça aussi.
C'est quoi, ça? C'est une porte. C'est une porte qui donne dans la salle d'à côté. Ce qui vous donne d'ailleurs l'idée de la grandeur de l'espace. Hein. C'est très, très grand. Hein. Très grand, très vaste, très... Hein. Alors, là, par parenthèse, ça vous rappelle quoi par rapport à ce qu'on a dit avant, justement? Ben voilà, c'est encore un trompe-l'œil. On est toujours dans cette vision qui correspond à la fois à... cette ambiguïté de la peinture, où commence la vérité, où finit l'apparence, hein, c'est ça toute la question de la peinture, et puis aussi qui travaille une autre question, parce que ça quand même, il y a quand même autre chose qui est à l'œuvre dans une peinture comme ça, c'est quoi?
Est-ce qu'il s'agit d'un tremblement de terre?
Quelque part, oui.
Sodome et Gomorre.
Ah, ça pourrait être Sodome et Gomorre, hein. Terrible destruction. Voilà, effectivement, un grand tremblement de terre, biblique en l'occurrence, hein, enfin, destruction. Hein. Mais ce n'est pas Sodome et Gomorre. Réfléchissez peut-être à d'autres drames anciens. Pardon? Ah, le temple de Salomon, il y a eu suffisamment de destruction du grand temple de Jérusalem pour que ça puisse être l'une d'elles, effectivement. Hein. Mais ça n'est pas ça non plus. Pardon? Ah, je ne sais pas. Enfin si, je sais, mais je ne vous le dirai pas. Enfin, pas tout de suite. Ça peut être mythologique. Pardon? Ah, voilà une idée. Vous nous rappelez ce que c'est?
Oui,
Aux origines du monde, il y a eu un combat entre les dieux de l'Olympe qui ont triomphé et les titans qui les ont détruits.
Absolument. C'est effectivement ce que vous voyez là, la question. Donc, c'est pas du tout une destruction biblique. C'est la lutte des dieux et des titans, qu'on appelle aussi les géants. Donc, ce que vous avez là, ce sont les géants qui, dont le monde, si j'ose dire, est détruit par les dieux, qui doivent se trouver où d'ailleurs ?
Là au-dessus.
Là au-dessus. C'est-à-dire que dans la partie supérieure, je vous en montrais, je crois que j'en ai mis un détail, vous verrez les dieux.
Voilà. Là au-dessus, on ne les voit pas.
Ouais. Mais ils existent. Enfin, je vais vous les montrer. Oui, quel est le... Donc, là aussi, si on avait à essayer de dire, à la fois de définir le style, la manière dont cette œuvre est réalisée, mais également les intentions de l'artiste, qu'est-ce que vous pourriez dire ?
Il y a un foisonnement.
Oui, ah ouais. Très fouillis, ça va dans tous les sens.
C'est presque de l'Archimboldo.
Il y a un côté archimboldesque, on a vu Archimboldo la dernière fois, vous vous rappelez.
Ça transcrit aussi l'espoir d'une certaine manière.
Oui, une espèce de. C'est vraiment une sorte de dramaturgie très forte, hein, effrayante, effectivement. Hein. D'ailleurs, cette salle était volontairement une salle assez sombre, précisément parce que. Et c'était volontaire, hein, précisément parce qu'en la gardant un peu sombre, ça permettait simplement à quelques lueurs d'être, si vous voulez, dans une ténèbre qui était celle, justement, de la chute des géants. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez ça dans une galerie à Giorno avec une verrière dessus, ça ne le fait pas, si vous voulez. Hein. Il fallait vraiment que la sombritude soit là, qui installe le climat de la scène en question. Hein. Ouais. Donc, effectivement, ça va dans tous les sens. Il y a une sorte de méli-mélo extravagant. Hein. Mais encore... Il y a quand même une chose qui est recherchée dans une œuvre telle que celle-là.
Elle se mélange des corps et...
Ouais.
Et
de
la matière. Et l'expression, quand même.
Alors oui, il y a beaucoup d'expressivité. D'ailleurs, vous parliez d'effroi tout à l'heure. Hein. Il y a des personnages épouvantables. Hein. Regardez, parce que, vous voyez, ça c'est la porte. Hein. Il fait à peu près 2 mètres de haut. Ces personnages-là sont réellement des géants, quand même. Hein. Surtout quand vous les voyez dans l'ombre et que vous êtes là au milieu des géants qui se cassent la figure, vous emmenez pas large. Hein.
Quelle était la fonction de cette salle ?
À votre avis ?
On a l'impression de pré-prison.
Ah, une sorte de prison.
Hein. Ou moins avant un jugement. Enfin,
Ah, une salle qui était dans un palais de justice. Donc quelque chose qui est là pour, j'allais dire, signaler la peine future. Hein. C'est une idée.
Ou un lieu d'éducation.
Un lieu d'éducation, quelque chose qui est... Attention, hein, ça va se passer comme ça. Hein. Ouais. Intéressant comme remarque, tout ça. Donc, vous verriez là une salle dans un lieu pour, par cette vision de l'effroi, hein, vous disiez, hein, quelque chose qui a pour but de montrer, dans un but... éducatif, voire de justice, hein, une sorte de châtiment. Ça vous irait, ça ? Ouais. Est-ce que vous auriez d'autres idées dans d'autres directions ?
Non.
Pardon ?
On pense à l'être inanimé et l'être animé, la matière et l'esprit. Alors, je ne sais pas après comment... aller plus loin, une
sensation
assez vertigineuse.
Ah, vertigineuse est le mot, je crois, oui, effectivement. L'être et l'esprit, peut-être, oui. Oui, pourquoi ?
La matière,
pourquoi ?
Surtout la pesanteur.
Ah oui. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est
on est écrasé, quand même.
Oui, oui, on est proprement écrasé, effectivement.
Voilà, oui.
Hein ?
Mais c'est pas, ouais. C'est la punition de l'orgueil.
Ah, une idée de l'orgueil, ouais. Ouais, il y a un petit peu de ça. Encore que les dieux qui sont au-dessus sont parfois un peu orgueilleux aussi. Hein.
Vous pouvez pas lui montrer les dieux.
Ah, j'ai voulu montrer.
On voit pas le dessus. Ça serait bien de les voir.
Il y a des gens impatients pour voir les dieux. Les géants, au bout d'un moment. Mais il y a peut-être encore une autre chose qui est recherchée là-dedans. Parce que je vous dis tout de suite, ça n'est pas du tout un lieu qui correspond à ce que vous disiez. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un lieu qui est là pour, signifier le châtiment qui attend celui qui ne file pas droit, si j'ose dire. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout dans un bâtiment qui est un palais de justice ou un équivalent renaissant de palais de justice. Si j'ose dire. C'est un palais tout court. C'est dans un palais. C'est dans un palais. Alors, pourquoi mettre ça dans un palais?
D'abord, ça magnifie les dieux.
Ça magnifie les dieux, oui. Et alors, qu'est-ce que c'est d'intéressant pour un palais de magnifier, dans un palais de magnifier les dieux? On est à la Renaissance.
Oui, c'est la puissance.
Oui, c'est la puissance, mais encore mais magnifier.
On est au contraire à la Renaissance, et on les déstabilise. On met l'homme avant les dieux.
Ouais, peu. Toujours.
Je sais pas. Ça pue l'homme là. C'est l'antiquité. C'est, en fait, ceux-là, les géants, c'est des non-civilisés.
Alors, il y a tout ce que vous dites. C'est-à-dire que, ce que vous avez là, c'est la victoire des dieux. Ceux qui gagnent, c'est Jupiter, Junon, Zeus, Héra, si vous préférez, et tout le monde. Hein, voilà, hein.
La punition du ciel.
Ah, c'est effectivement le ciel qui vient punir. Hein. Donc, il y a effectivement aussi cette idée-là. Mais c'est vrai que ceux qui gagnent là, ce sont les dieux. Les dieux gréco-romains, on est quand même à la Renaissance. Hein. Alors, la Renaissance n'est pas une période païenne, hein, mais c'est une période qui s'intéresse beaucoup, et vous le savez, à revisiter l'Antiquité. Donc, revisiter les dieux et montrer, j'allais dire symboliquement, leur victoire, ça fait partie du truc, si j'ose dire. Après tout, on est quand même à la Renaissance, et cette culture de l'Antiquité gréco-romaine est très importante. Donc là, on a le triomphe des dieux, quelque part, puisque c'est la chute des géants. Hein. Donc c'est un élément qui compte. Vous aviez dit un autre truc qui était intéressant, il y a un instant, mais que j'ai...
C'est-à-dire qu'ils sont... C'est le non-civilisé, celui-là.
Ah voilà, c'est ça.
C'est le non-civilisé, ce sont des barbares.
Alors, effectivement, tout à fait. Il y a aussi ce que vous dites là, c'est-à-dire le fait de vaincre, effectivement, le barbare. Hein. La Renaissance, après tout, affirme la qualité de la culture gréco-romaine. Hein. Donc, les dieux gréco-romains, ils sont vainqueurs des barbares antérieurs. D'ailleurs, quand vous voyez les trognes des bonhommes en question, on peut comprendre, n'est-ce pas, qu'il y a une volonté, même s'ils ne sont pas sans noblesse, hein, quelque part, de s'en moquer. Hein. Et les dieux, eux, sont magnifiques, vous allez les voir dans le ciel. Mais il y a une autre chose, enfin, même deux autres choses, à mon avis, importantes. Vous voyez peindre ça, vous? Parce que ça fait combien de mètres de haut, ça?
C'est énorme.
Voilà. Si vous voyez à partir de la porte, ce que vous avez là fait 8-10 mètres de haut, quand même. Hein. Bon, tout le monde peint ça, il n'y a pas de problème. Ben, pas trop. Hein. C'est-à-dire, quel est le but, autrement dit, de ça?
C'est
impressionnant. Vous avez là un chef-d'œuvre inouï de peinture. Pas un petit tableau fait sur toi. C'est un bazar énorme. En plus, là, je vous montre un mur, mais il y en a quatre. Il y a la voûte. C'est donc considérable. Donc, le but est aussi de montrer quoi ?
D'égaler les dieux.
Alors, quelque part, on égale les dieux. Hein. C'est de montrer la prouesse humaine. L'homme est donc capable de faire ça. Et d'ailleurs, dans le palais en question, les gens qui ont commandé ça sont donc capables de commander à quelqu'un cette prouesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc l'idée est de célébrer la prouesse. C'est de montrer à quel point... Parce que, encore une fois, faire une peinture comme ça, mais c'est pas possible. D'ailleurs, il y aura d'autres prouesses dans cette période, par exemple.
La chapelle Sixtine.
Moi, je veux bien que vous en fassiez une, mais en vrai, c'est un petit peu... Ça demande 3 minutes, quoi. Hein. Donc on est à une époque où la prouesse, c'est important. On se dépasse. On fait pas son petit tableau sur sa petite toile. On fait des trucs énormes, absolument énormes, que personne ne peut faire. Il faut des années, un temps fou pour le faire. C'est énorme. C'est très compliqué. En plus, c'est pas simple à faire. Donc la prouesse, elle compte. Et puis, vous avez vu que c'est un cataclysme, la chute des géants. Et on voit à cette époque-là, et ça va durer, hein, on voit ça encore au XVIIIe siècle, hein, on voit une sorte de goût pour ce qu'on appellera au XVIIIe siècle le sublime. Hein, c'est-à-dire le côté merveilleux de l'horreur. Hein, l'horreur est délectable, en quelque sorte. Le cataclysme devient une sorte de source de jouissance. Du moins quand on le représente, peut-être pas quand on le vit. Hein, mais là, montrer dans un palais qui vous tombe dessus, alors qu'il ne vous tombe pas dessus, mais que... On a l'impression que ça, c'est formidable. Il y a une espèce de beauté de l'horreur, ce qu'on appelle le sublime, n'est-ce pas ? Tout s'effondre, Et on est au milieu de cet effondrement, cette cacophonie totale. C'est par exemple, il y a d'autres choses d'ailleurs, par exemple l'opéra, hein, qui de la même manière peuvent montrer ça en live. Si vous voulez. Qui est-ce qui a fait ça et où?
C'est pas le Palazzo
Te.
C'est. Et c'est Giulio Romano.
Et oui. Et c'est où?
À Mantoue.
Et voilà. On est encore à Mantoue. C'est le Palazzo Te, qui n'est pas le Palazzo Ducale. Hein. Voilà. Et voilà donc. Cartel correspondant, mais ce que je vais surtout vous montrer, c'est d'autres vues de la salle. Hein. Donc voilà un autre mur, vous voyez encore un autre géant, enfin il y en a plein d'autres, hein. Et voilà l'assemblée des dieux. Les dieux sont là, sur la voûte, qui sont en train de faire s'écrouler le monde des géants. Voilà, vous les avez, vos dieux. Hein. Voilà, encore un autre détail de la salle. Hein. Toujours les géants qui s'écroulent, vous le voyez, sous des monceaux de blocs. Vous avez même des têtes de géants coincées entre les rochers. Hein. Voilà, c'est vraiment la fin des géants. C'est étonnant. Hein. Donc là, on a un type d'œuvre qui, après, va quand même connaître beaucoup de succès. Hein. La prouesse. Le sublime, l'hécatombe, le drame, le chaos, hein, tout ça plaît beaucoup dans une célébration pour l'Antiquité gréco-romaine, qui est après tout un des grands leitmotifs de la Renaissance. Bien. Eh bien, c'est bien. On aura vu quelques-uns des musts de la peinture murale en Italie au XVe et XVIe siècle. Mais pour terminer ce cycle, je voulais vous emmener quelque part pour voir toujours de la peinture murale. Un ensemble également très 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 important, mais à mon avis peut-être aussi méconnu qu'il est important, peut-être parce qu'il crève les yeux. Alors je vais vous le montrer, on va aller là. C'est quoi ça? Florence? On va aller à Assise peut-être plutôt? Florence, Assise.
Ah, si, j'y suis
allée,
mais
je n'ai
pas
marché. C'est-à-dire que là, en plus, c'est un peu par. Ah, peut-être plutôt Venise, alors. Ah, ou Sienne, c'est tentant, Sienne. Sienne, le côté terre de Sienne, justement. Hein. Ouais. Alors, Sienne, Florence, Venise, Padoue.
Mais il y a un écusson, on a l'impression qu'il y a un écusson papal.
Bah oui, mais alors le pape en Italie...
Il y en a partout.
Voilà. Il y en a partout, c'est bien le problème. Hein. Autrement, je vous l'aurais coupé, l'écusson papal, si vous voulez dire quelque chose de spécial. Mais je me suis dit, bon, un écusson papal de plus ou de moins. Alors, il va quand même falloir qu'on... Rome. Donc on sera à Rome? Florence. C'est vrai que ça fait bien penser à Florence, hein, ces petites tours là derrière.
Oui,
ou Sienne, c'est tentant, Sienne.
Sienne.
C'est un bâtiment extrêmement célèbre. Extraordinairement célèbre. Illustrissime. Bâtiment très, très, très bien. Vous connaissez tous. Ah, les Offices. Uffizi, la galerie des Uffizi. Donc, on est à Florence, devant les Offices. Sauf qu'on est à Rome, devant la chapelle Sixtine. Donc, on n'est pas à Florence, on n'est pas à Padoue. Quelqu'un avait flairé l'affaire, hein, tout à l'heure. Hein, voilà. Mais voilà, nous sommes jamais très vite mouillé le pétard. Nous sommes à Rome, au Vatican, devant la chapelle Sixtine. On ne la voit jamais, ce qui fait que... On a toujours intérieur, on ne vous montre jamais extérieur, on ne se rend pas compte de ce que c'est.
Et ben voilà,
ça, c'est la chapelle Sixtine. Donc les cuissons, vous voulez bien dire quelque chose. Enfin, j'ai eu très peur à un moment. Hein. C'est pas passé loin, hein, mais bon. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on est à Rome, devant la chapelle Sixtine. Alors, vous connaissez la chapelle Sixtine, parce qu'à la chapelle Sixtine, il y a
Michel-Ange.
Il y a Michel-Ange, n'est-ce pas, hein. Alors, la chapelle Sixtine, elle se situe, je vous le rappelle, là. Hein. Il y a bien une chose bizarre. D'ailleurs, je ne m'en étais pas aperçu avant de préparer cette séance, parce qu'on n'en parle jamais.
Elle n'a pas une forme.
Oui, elle a vraiment une forme très simple, hein, vous avez vu, hein, d'ailleurs. Quand on l'avance du bruit, c'est blanc, ben non, c'est le Vatican. Non, mais alors, vous reconnaissez ici Saint-Pierre, hein, bien sûr. Je suis désolé, ce plan est en anglais, mais enfin, on est polyglotte ici. Voilà, ben, Saint-Pierre, en fait, soit vous reconnaissez. Bien. Et la Jabécité est donc juste à côté, là. Mais il y a une chose étonnante.
Elle est déportée, elle n'est pas du tout dans...
Oui, elle est dans... Elle est... Alors, il faut dire qu'il y a plein de choses... Il y a aussi, elle s'appelle Pauline, et ça, il y a plein de choses, là. Hein,
il y a plein de... Dans le jardin, il y a plein de bâtiments.
Plein de bâtiments. Il y a moi une chose qui m'a frappé et que j'avais jamais percuté, ça. Truc très, que je trouve très curieux. C'est quoi ?
La voie de chemin de fer.
Pardon ? Alors c'est vrai, j'ai obligé d'être toute petite. Bon, Saint-Pierre de Rome, vous savez, jusqu'à ce qu'elle soit construite, c'était Cluny, la plus grande église d'Occident, après que Saint-Pierre, ça a été Saint-Pierre, qui fait, je crois, 3 mètres de plus, quelque chose comme ça. Donc j'ai dit, non, Saint-Pierre, c'est énorme, j'ai obligé, c'est petit, vous avez raison. Hein. Mais il y a une chose qui m'étonne.
Les chapelles ont une forme de croix, non ?
Alors, oui, Saint-Pierre a bel et bien une forme de croix. Mais pas la chapelle Sixtine, pas forcément. Hein, vous avez des chapelles halles, où vous avez simplement une nef, quelquefois des bas-côtés, tout est possible. Non, mais il y a une autre chose qui m'étonne par rapport à l'emplacement ou...
Son orientation.
Parce que là, le plan, il est fixé au nord, je dirais, le nord est en haut. Or, Saint-Pierre, quand la chapelle Sixtine, regarde vers où ? Ben, vers l'ouest. Parce que l'est est à droite, hein, parce que le nord est là. Voilà. Or, Saint-Pierre, regardez, a le cœur à l'ouest. Et la chapelle Sixtine aussi. Et alors, voyons ça, j'ai vérifié dans tous les sens, et bien c'est comme ça. J'avoue que je suis très surpris. Je m'en étais absolument jamais aperçu. On n'en parle jamais. J'ai regardé dans plein de trucs. C'est jamais dit. Et pourtant, c'est bien ça.
C'est pour voir sous la pétrole.
Ah, c'est sans doute ça. Et en plus, je pense que c'est assez vrai, votre idée. Enfin, je suppose que c'était l'une... Pardon ? Ah bon, ça arrive donc. Mais ça doit être ça. Sauf que la chrétienté, normalement, elle continue un petit peu sur la droite, si j'ose dire. Mais ça peut bien être ça. Il y a peut-être aussi des questions qui font que, en termes de positionnement, il n'y a peut-être pas tellement d'autres possibilités techniques. Je ne sais pas. Oui, peut-être, peut-être.
C'est une vue dessus, là. Donc,
oui,
je sais pas, mais... si ça monte ou ça descend.
Alors, ben, ça monte par là. Hein. Là, ça monte. Hein. Il y a une des collines. Hein. Mais je pense que votre idée me paraît très juste, moi, pour regarder du côté de la chrétienté. Quoi. Mais bon, il faudra qu'on regarde.
On va demander à l'architecte.
Bon, on va demander à l'architecte. Simplement, cette chapelle Sixtine, on la connaît parce qu'à l'intérieur, il y a ça. Alors, il y a le jugement dernier dans le fond, c'est-à-dire le mur ouest. Hein. C'est-à-dire le mur ouest, c'est celui-là, avec l'autel en dessous, voilà la voûte. Hein. Et donc, Michel-Ange a peint la voûte et le mur ouest. Hein. Donc, il y a, on est bien d'accord, la voûte, qu'il a peint au début du XVIe siècle, hein, 1508-1512. Alors, on va pas revenir sur la voûte, d'ailleurs, on en a déjà un peu parlé l'autre jour. Hein. Enfin, ça, c'est ultra célèbre, on va pas... Enfin, ce serait à regarder à nouveau, hein, mais bon, c'est pas le... On ne va pas aller là-dedans. Voilà donc je vous ai dit qu'il a peint carrément plus tard. Vous vous rappelez que la chapelle Sixtine a été peinte par Michel-Ange en deux temps. Hein. Au départ, la voûte, début du XVIe, puis plus tard, en 35-41, le jugement dernier. D'accord ? Seulement, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde toujours ça, mais on ne regarde jamais les murs. Les murs, ils sont peints aussi. Et alors, c'est quoi ? Est-ce que vous savez qui a peint les murs ?
La Botticelli.
Peut-être bien. Et puis
Raphaël,
Botticelli. Bon. Parce qu'on ne les regarde jamais. On voyait que les murs, comment vous les organiseriez, ces murs-là ? Regardez du bas jusqu'en haut. Qu'est-ce qu'on voit ?
Il y a trois niveaux.
Hein. En bas, vous devinez peut-être un peu, c'est difficile. En bas, c'est des fausses draperies. Hein. Donc c'est des trompe-l'œil, des fausses draperies. Bon. Ensuite, il y a un niveau avec des peintures.
Des scènes,
des grands panneaux avec des scènes. On va regarder ça d'un peu plus près. On ne les regarde jamais, mais on va les regarder ici. Et puis en dessous, il y a des figures. Voilà, il y a toute une série de saints personnages qui sont en fait des papes, hein, qui sont représentés en haut. Hein. Et puis après, commencent les peintures de Michel-Ange, avec là, en l'occurrence, hein, les représentations des ancêtres du Christ, telles que saint Matthieu les décrit dans l'Évangile. Bien, voilà. Alors, ça, bon, c'est des papes, les uns côté des autres, c'est très bien, mais on ne va pas peut-être pas faire le réveillon là-dessus, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ici, vous avez la voûte, très bien. Les fausses draperies, on ne va peut-être pas non plus les regarder de plus près. Ce que je voudrais, c'est qu'on regarde ça, parce que ça, on ne regarde jamais. Les gens regardent la voûte, ne regardent pas les murs. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les murs? Eh bien, c'est ça qu'on va regarder.
Il n'y a pas beaucoup de temps pour regarder.
Eh oui, il y a peu de temps pour regarder, puis vraiment, on est tellement happé par ce qui se passe en haut. Oh, ben oui, de toute façon, c'est... Alors, je vais vous passer... il y a 5 et 5, 10. Il doit y avoir 10... 5 panneaux d'un côté, enfin 5 combustions d'un côté, 5 combustions de l'autre, si je ne m'abuse, 5 ou 6, je ne sais plus. Il y en avait d'autres d'ailleurs, on va en dire un mot dans un instant. Je vais vous en passer 8 d'entre elles. On va essayer de voir quelles sont les scènes. On va essayer de voir peut-être quels sont les peintres. On va essayer de voir ce que ça représente. Enfin bref. Alors bien entendu, je vous ai mélangé tout ça pour rendre la chose un peu plus piquante. On est d'accord ? Première scène. Qu'est-ce qui est ici représenté ?
Les clés
de Saint-Pierre, mais encore. Ouais. Donc effectivement, c'est. Alors qu'est-ce qui donne les clés à qui? Donc, Christ donne les clés à Saint-Pierre. D'accord. Hein. Combien de clés? Deux. Deux. En quelle matière?
En métal.
En métal, effectivement. Une en argent, une en or. Il y a deux clés du paradis, une en or, une en argent. Bien. Ok. Cette peinture, là aussi, si vous aviez, donc vous avez vu la scène, le moment où le Christ donne les clés à Saint-Pierre, pourquoi cette scène-là?
On est à Saint-Pierre.
Alors, on est au Vatican, hein, oui. On est à côté de Saint-Pierre de Rome, c'est la cité de Saint-Pierre. Voilà un thème qui s'impose. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette représentation? Et aussi son style, etc. Pardon? Oui? Oui, une espèce de détachement de perspective, comme ça, avec des niveaux, comme ça.
Des arcs de triomphe.
Oui, des arcs de triomphe. Ça, c'est, qu'est-ce que ça vous évoque, ça?
Rome,
hein, on sent vraiment qu'il y a un regard sur l'Antiquité. Hein. On est à Rome, ben, il suffit d'aller sur le Forum, même si les arcs de triomphe à cette époque-là étaient encore très enfoncés dans la terre. Hein. Ben, on connaissait quand même ça. Hein. Très bien.
C'est une perspective avec ce qu'il y a au fond, le bâtiment, qui est très souvent représenté par des peintres différents. Moi, je pense à Pérugène.
Absolument. En effet, il y a, vous citez Pérugin, on avait vu, si ma mémoire est bonne, une œuvre de Pérugin, vous citez Raphaël et vous avez raison, qui ont représenté comme ça des choses avec une perspective comme ça très centrée, très organisée. Hein? Ok, très bien. Vous avez remarqué aussi la frise sur le devant. Hein? Tout ça est vraiment très, très structuré. Une frise devant, une perspective qui est elle-même très organisée. On a cité Pérugin, on a évoqué Raphaël, très bien. Une idée d'un auteur?
C'est amusant parce que ce qui est central, là, le bâtiment central, on dirait presque le bâtiment de Florence. Là,
le baptistère. Oui, absolument. On dirait le baptistère de Florence.
À bâtir la perspective.
Oui, oui, absolument. Oui, non, mais c'est vrai. Hein, on a l'impression de quelque chose qui évoque le baptistère de Florence. Vous avez raison, on est là devant quelque chose qui peut-être s'en inspire, d'ailleurs, parce que c'est tellement proche qu'on pourrait le croire, absolument. En tout cas, une grande structure. Mais ça ne me dit pas qui a fait ça.
Il y a une belle harmonie de couleurs.
Belle harmonie de couleurs. Non, pas d'idée. Bon, vous avez cité, vous disiez, c'est proche de Pérugin, c'est proche de Raphaël, effectivement, hein, c'est juste. Bon, l'un des deux.
Raphaël, peut-être. Avec la... La coiffure de l'ange.
Alors il aurait fait après. Si c'est Raphaël, il l'a fait après.
L'estance, les chambres qu'on a vues l'autre jour. Donc il aurait fait ça avant, après. Donc il aurait travaillé avec Sixtine et puis dans les chambres, peut-être, après. Peut-être, écoutez. En tout cas, on retient Pérugin, Raphaël, un travail fait avant ou après les chambres. On verra ça tout à l'heure. Allez, une deuxième scène. Alors, le sujet.
Une bataille. Et les ciels qui s'étaient. Qu'est-ce qu'il fait? Un orage.
Dans l'eau jusqu'au cou.
Il y a un déluge.
Il y a un déluge. Pardon ? La mer morte ? La mer rouge ? La traversée de la mer rouge. Qu'est-ce qui se passe en face de la mer rouge ? Voilà.
Hein. Après le passage de Moïse.
C'est ça. Hein. Vous rappelez que Moïse et les Hébreux vont en Égypte et ils vont passer la mer rouge. Les armées de Pharaon vont les poursuivre et la mer rouge va s'ouvrir devant eux, les laisser passer et se refermer sur les armées égyptiennes. Bien. Et donc c'est effectivement après le passage à la mer rouge, parce que les Hébreux sont sains et saufs, hein, et là, la mer rouge se referme sur eux. Très bien. Ok. Vous auriez à dire quoi par rapport à tout ça ? Là aussi, la mer de fer, qu'est-ce que ça vous inspire ? Par rapport à l'œuvre précédente, par exemple.
Beaucoup plus mouvementé.
Les nuages,
ils sont très particuliers.
Très particuliers.
Qui doit représenter Moïse, là on dirait que c'est le Christ.
Oui, on a. Alors c'est pas faux ça. On a la représentation d'un personnage qui est Moïse, mais qui a une dimension christique, effectivement. Hein, vous l'avez remarqué, c'est juste. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, vous auriez encore des choses à dire sur la dimension stylistique de...
Le ciel est étonnant.
Ouais, c'est très curieux. Justement, ce ciel, ce paysage, ça vous donnerait quoi comme idée ? Vous avez fait allusion tout à l'heure pour une autre œuvre. Alors, je ne parle pas d'un autre artiste, mais pour une autre œuvre, vous avez dit, oh, ça a un côté très... Ce genre de rocher, de... Vous disiez tout à l'heure devant les mages de Benozzo Gozzoli que ça avait un côté très médiéval encore. Hein ? Et là, c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose de... Quand on voit l'œuvre d'avant et ça, pourtant, ça date exactement de la même époque. Hein. Eh bien, on a l'impression là de quelque chose de beaucoup plus médiéval, beaucoup plus archaïque. Et là, j'ai oublié de vous le dire, mais dans l'œuvre de Benozzo Gozzoli, tout à l'heure, le cortège des mages, hein, Laurent le Magnifique a trouvé que l'œuvre de Gozzoli n'était pas terrible, parce qu'il l'a trouvée trop vieillotte. Trop médiéval, justement. Donc votre remarque était très juste. Hein. L'œuvre de Gozzoli est une œuvre encore très, très, très médiévale, alors que Laurent le Magnifique est déjà un train en avance, si vous voulez. Je caricature un peu, hein, voilà. Bah, là, c'est pareil, on a une œuvre, finalement, qui, à côté de l'œuvre d'avant, est une œuvre encore très médiévale. Regardez-moi ces rochers, ces nuages. On a l'impression d'être devant un triptyque flamand du début du 15e. Quoi, hein.
Il y a une colonne au milieu de l'eau, là.
Oui, parce qu'il y a l'idée d'une colonne de feu, vous savez, qui... Voilà. Bien, je ne vais pas vous demander qui est l'artiste parce que là c'est vraiment un peu trop compliqué. On verra tout à l'heure. Bah, c'est vraiment facile, c'est même pas drôle tellement c'est facile. Par contre, on va essayer de trouver qui a fait ça. Botticelli. On nous a parlé de Botticelli tout à l'heure. Hein. Alors, on aurait peut-être une œuvre de Botticelli ici. Hein. Bon. Ok.
Oui, la silhouette aussi,
le déhanchement. Un déhanchement botticellien en diable. Hein.
Puis là, les cheveux.
Ah oui, les cheveux, l'élégance peut-être. Hein. Voilà. Botticelli. Oh. Eh bien, allons-y pour Botticelli.
Ça, c'est Botticelli.
Ah. Alors avant, c'est pas Botticelli. Moi, je comprends. Parce qu'avant, c'était Botticelli. Encore une fois. Donc, il y a deux Botticelli. Écoutez, pourquoi pas. Alors, on aurait là une œuvre de Botticelli. Là, on commence un peu par la fin, parce que ça représente quoi, ça ? Pardon ?
Des bergères.
Ah, il y a des bergères, effectivement.
En haut, il y a une
petite pluie. Au puits.
Il y a ça qui est dans le...
En extase.
Il y en a qui se rappellent des cours précédents, enfin, des ateliers précédents, effectivement. Voilà, c'est l'épisode de Moïse et les filles de Jéthro. On l'a vu par qui ? Par Rosso. Rosso Fiorentino, vous vous rappelez ? Où on voyait un monsieur Moïse qui était devant, musculeux, etc., qui était en train de tabasser un autre type. Puis dans le fond, il y avait les filles de Jéthro et puis le puits. Vous vous rappelez de ça ? Voilà. Eh bien, c'est la même scène, hein, Moïse et les filles de Jéthro. Hein. Et vous avez la veille Séphora qui doit être, sans doute, peut-être celle-ci ou celle-là. Bien. Voilà. Et là, Moïse est en train, alors il est à la fois là... Et là, qui envoie valser, si je veux dire, les bergers qui ne voulaient pas laisser les filles de Jéthro puiser de l'eau au puits. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, d'ailleurs ?
c'est là-haut, à
oui.
À gauche, il y a quelqu'un qui prie et on dirait qu'il y a un Dieu le Père qui sort de...
Oui,
de
la ouais. Roche, oui. C'est quoi
Christ et le buisson
ardent. Eh ben voilà, c'est Moïse et le buisson ardent. Vous connaissez les pierres de Moïse et le buisson ardent? Alors, il y a des versions qui disent que dans le buisson, c'est plutôt la Vierge et l'enfant qui apparaissent. Là, c'est Dieu, ben allons-y. Donc, vous avez Moïse, avec ses, parce que vous savez qu'il est avec ses moutons. Hein, et il voit dans un buisson qui se consume sans se consumer, Dieu qui apparaît. Ben, c'est lui. Donc, il apparaît là, il apparaît là, il apparaît là. Autrement dit, cette scène, ça représente quoi?
La vie de Moïse.
Des scènes de la vie de Moïse. Hein. Ça vous rappelle quelque chose? On a vu aujourd'hui et il y a un instant.
De la traversée de la mer.
Eh bien, le verre rouge.
Ah oui, ben ça va ensemble.
Ça va ensemble. Nous avons dit, on a déjà deux scènes de la vie de Moïse qui sont là dans la chapelle Sixtine. Ok.
Jamais 210.
Ah, on va voir. On va voir.
Alors là,
c'est le Christ.
Là, c'est le Christ. Mais évidemment, tout à l'heure, on a vu l'espèce de lien entre le Christ et Moïse. Intéressant ça. Hein. Devant une sorte de rivière, un plan d'eau en tout cas, ouais. Et alors
il y a une foule.
Il y a une foule.
Il y a des saints avec des auréoles.
Il y a des saints avec des auréoles.
Et puis un
ça serait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament.
Il y a plusieurs scènes.
Où est-ce que vous la verriez là?
Le fait de Moïse.
Ah, vous voulez dire de manière générale.
De manière générale.
Oui, oui, entre ces. Oui, oui, ça, alors vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait dans les panneaux, qu'on a vu pour l'instant, hein, des choses tirées de l'Ancien Testament, Moïse, d'autres tirées du Nouveau, le Christ. Donc effectivement, c'est cette elle est venue, vous avez raison, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La vie du Christ, la vie de Moïse. Très juste. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, Moïse est représenté comme une sorte de Christ. Alors là, l'épisode serait quoi?
Pas la pêche miraculeuse.
Non.
Pas de poisson.
Non. Non, mais il s'est passé à plusieurs reprises des choses autour de l'eau.
Et quand il dit la marche sur l'eau, à ses futurs disciples, laissez tout et suivez-moi.
Oui. Il le dit à deux en particulier, qui ont un métier.
Qui sont pêcheurs.
Qui sont pêcheurs. Et qu'est-ce qu'il leur dit?
De le suivre
et il a une sorte de métaphore. Voilà. Vous êtes pêcheur, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ben, c'est ce que vous avez là derrière. Hein. Vous avez le Christ de quoi? Pêcheurs, mais qui vont devenir quoi?
Des apôtres.
Hein. Donc deux apôtres. Et on les retrouve quelque part, on les trouve où?
Devant.
C'est les mêmes que vous avez là. Parce que là, vous avez déjà le Christ. Les futurs apôtres dans leur barque qui sont encore pêcheurs. Là, nouveau, le Christ avec les apôtres qui, cette fois, sont vraiment apôtres. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on pourrait appeler, finalement...
Mais le temps est télescopé.
Voilà. Oui, oui. Ah, oui, oui. Là, on a plusieurs scènes, parce que ça recommence, ça continue là encore. Encore le Christ, encore deux pêcheurs. Donc, en fait, c'est quoi, ce panneau? C'est des scènes de la vie du Christ, mais précisément... C'est... Quel moment, avec un S?
Au début de sa vie.
Mais encore, voilà. Le moment où il se passe quoi?
L'appel des apôtres.
Voilà, ce qu'on appelle la vocation des apôtres. Hein. Alors ça, c'est un thème que vous verrez souvent dans la peinture, le thème de la vocation des apôtres, c'est-à-dire que le Christ appelle les apôtres, hein. C'est la vocation des apôtres. Là, au premier plan, en particulier, Saint-Pierre et Saint-André,
alors.
Paul.
Saint-André.
Saint-André. Et là,
ça fait
Boutichelli. Ah ben ça Boutichelli, ça. Ça c'est clair.
Hein.
Ouais. Clair, clair, clair. Et ça représente quoi cette peinture de Boutichelli?
Des jeunes filles.
Ouais.
Et un hôtel.
Et un hôtel. Il y a Moïse au milieu. Moïse au milieu. Qui tient
les tables de la loi.
Table de la loi.
Ah oui, là-haut. Là-haut.
Ah, là-haut, oui.
Moïse au milieu, qui tient les tables de la loi. Il fait quoi, d'ailleurs?
Oh, il se prépare à les casser.
Il se prépare à les
casser.
Casser, il les brandit, il les casse pourquoi? Parce qu'il y a besoin de
Vaudor.
Et alors ?
Il est là-haut, le Vaudor.
Il est là, le Vaudor.
C'est scandaleux, mais il est où ?
Au milieu, là.
Eh ben voilà, il est là. Le Vaudor est toujours debout. Vous connaissez l'opéra, hein ? Je ne vais pas vous le chanter. Hein ? Voilà. Hein ? Voilà l'hôtel avec le Vaudor au-dessus. Et puis, il y a autre chose que vous n'avez pas vue. Au-dessus, qu'est-ce qui se passe ? Ben voilà. Voilà, c'est Moïse qui reçoit de Dieu les tables de la loi. Il reçoit sur la montagne les tables de la loi, puis il descend, et là il voit que pendant qu'il était parti, le voilà d'ailleurs à nouveau Moïse avec les tables de la loi et ses cornes de feu. Hein. Et il remarque que les Hébreux ont construit le veau d'or, ils sont en train de danser autour, alors il casse les tables de la loi. Voilà. Botticelli donc. Hein. Bien.
La scène.
La scène.
Ah, alors on va compter.
C'est la scène.
Non, qu'est-ce qu'il ferait le personnage devant
C'est qui, oui, ce serait qui le personnage
Ah oui, mais c'est le seul qui n'a pas d'auréole.
C'est vraisemblablement Judas, oui.
Il n'a pas d'auréole, lui.
Oui, enfin, il en a... Ouais.
Il est représenté
pas d'auréole, là, pour le
coup. Les autres ont une auréole
Oui. Très souvent, effectivement, représenté de dos comme ça, c'est Judas. Donc ce ne serait pas du tout étonnant que ce soit lui. Je pense que c'est lui.
Oui, parce que
mais il y a autre chose que vous n'avez pas vue.
Alors il y a des scènes par derrière.
Eh oui. Et qui ont une sacrée importance. Eh oui, ça c'est quoi, ces scènes derrière ?
On voit mal.
Oh, si. Je vais aller dans le fond pour voir si on voit.
Oh,
c'est une évidence. C'est clair ici. Eh ben voilà, hein. C'est le Christ au jardin des Oliviers. Vous savez, c'est un schéma qu'on voit tout le temps pareil. Hein.
Il y a la crucifixion à droite.
Le Christ agenouillé et juste devant des personnages qui dorment. C'est
je voyais un lion.
De un lion.
Et puis la crucifixion à droite.
Que les gens du fond voient un lion au premier plan, je veux bien. Mais que les gens de devant voient des lions là où il y a les apôtres qui dorment, non. Non, vous avez là, et ce genre de choses, vous trouverez ça tout le temps. Hein. J'ai dû déjà vous en montrer ici comme ailleurs des milliers d'exemples hein, du Christ au jardin. Toujours pareil. Il y a le Christ en haut, agenouillé, et puis devant, trois personnages, ici, Christ au jardin des Oliviers. Là devant, là vous voyez.
C'est l'arrestation.
L'arrestation du Christ.
Oui, et puis la crucifixion.
Et là,
la crucifixion.
La crucifixion, vous voyez le Christ en croix et deux. Hein, voilà. Donc, on a effectivement la scène et des scènes figurant derrière les, la passion du Christ.
Hein. Oui, la projection dans le temps.
C'est ça. Hein, on a la scène et la suite des événements. Très bien. Un auteur, peut-être ? Non.
Là aussi, le personnage de droite, il n'est pas... Il fait penser à, aussi des personnages de Botticelli.
Décidément, tout ça est très botticellien. Oui. Hein. Bah, on nous a parlé de Botticelli tout à l'heure. Hein. Bien, bien, bien. Allez, une dernière, peut-être. Botticelli. Hein. Ça, c'est Botticelli, ça. Hein. C'est clair. Hein. En fait, tout est Botticelli. Hein.
Non, mais c'est vrai.
Clairement, on parle de Michel-Ange, mais Botticelli a tout fait dans cette Jamie Sixtine. Hein ? Et alors, Botticelli nous montre quoi, là ? Alors là, tout le monde voit.
Oui, mais c'est sur le toit. Ça.
Oui. Alors, on voit un bâtiment avec des gens sur le toit.
Oui, c'est très curieux.
En lévitation sur le toit.
Non, ils sont posés.
C'est quoi ?
C'est la tentation qui
jette. Et voilà.
Ah,
qu'est-ce
qui
se passe ? On est après le baptême du Christ. Le Christ a été baptisé. Il va dans le désert où il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, il y a quelqu'un de pas gentil qui vient le tenter. C'est qui ?
Le démon.
C'est le démon, Satan. Hein ? Et qu'est-ce qu'il lui propose ?
De sauter d'en haut.
De sauter en haut.
Voilà,
du temple.
Du temple. Hein ? Alors, il lui propose autre chose aussi. Jésus vient de jeûner pendant 40 jours.
Ah, de manger aussi.
Il nous propose de manger. Manger quoi ? Il est dans le désert, il n'y a rien à manger. Voilà. Et comment trouver ça dans le désert ?
À la manne.
Alors, il ne propose pas tout à fait le mal. Il lui propose autre chose. Dans le désert, il n'y a pas de pain. Il y a beaucoup de...
De rien.
Il y a beaucoup de rien. Il y a quand même des choses sur le sol. Des pierres. Et donc, Satan va proposer à Jésus...
De changer les pierres
en pain. Et Jésus va dire...
Éloigne-toi.
Absolument. Il va dire trop Satanas. Voilà. Donc, il va pas vouloir. Et puis, il y a une dernière chose. Hein, oui. Voilà, il lui montre la totalité de l'univers. Il lui dit, écoute, si tu veux, si tu te prosternes devant moi, tu seras le roi, le maître de tous ces territoires. Hein. Et c'est là, d'ailleurs, que c'est la troisième proposition que Jésus lui dit, va dire ton Satanas. Bref, il le renvoie dans ses...
Il semble bien qu'il y ait les flammes de l'enfer, quand même, au centre.
C'est-à-dire que, oui et non, ce que vous avez au centre, c'est le temple de Jérusalem. Hein.
Oui, mais là,
ça
fait passer à des flammes.
Ce sont des flammes, oui.
Flammes de l'enfer.
Oui, ben, je ne suis pas sûr, parce qu'on est dans le temple de Jérusalem, je ne sais pas. Est-ce que c'est pour un hôtel devant
le temple ? Pour un holocauste. Pour des holocaustes.
Je pense plutôt à ça. Bon, donc, les épisodes de la tentation du Christ par Botticelli, ok ? Bien. Alors, encore Yves ?
Oui.
Ça vous va, ça ? Parce qu'effectivement, sur ces murs hein, qu'il y a de chaque côté de la chapelle Sixtine, quand on va vers l'autel, il y a donc ces peintures qui présentent, vous l'avez dit, hein, d'un côté les épisodes de la vie de Moïse et de l'autre ceux de la vie du Christ. Dans cette volonté que vous avez bien soulignée de mettre en parallèle Ancien et Nouveau Testament, on l'a vu très très souvent ici. Hein. C'est un exemple de plus. Alors, regardons un peu ce qu'il en est. Ce qu'il faut vous dire d'abord, on va d'abord regarder le mur sud. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est le mur ouest, hein, qui devrait être à l'est, mais qui est à l'ouest. J'y peux rien, avec l'autel. Et là, vous avez le jugement dernier, d'accord ?
Oui.
Le mur sud, c'est celui-là. Autrement dit, voilà le déroulé.
Oui.
Ok ? On va aller depuis l'autel jusque vers l'entrée. L'entrée Sixtine, elle est là. Hein ? Là, il y a le jubé, d'accord ? Ça, c'est le cœur. Contrairement au chapelle normal, dans le chapelle Sixtine, le cœur est beaucoup plus grand que la nef. Hein ? Simplement parce qu'il y a évidemment beaucoup de prélats. Ils sont dans le cœur. Les laïcs, si j'ose dire, ils sont, eux, ben, moins nombreux. Et donc, le jubé est assez décentré. Hein ? Donc, on va regarder le mur depuis là jusque là. C'est-à-dire depuis là jusque là. Ok ? D'accord ? Bien. Alors, allons-y. À vrai dire, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y avait autrefois, à la place du jugement dernier, je rappelle que le jugement dernier a été fait tardivement, hein, il a été terminé vers le milieu du siècle, hein, et il y avait autrefois, avant que Michel-Ange ne fasse ça, deux panneaux côte à côte qui ont été détruits quand Michel-Ange a fait son jugement dernier, et qui représentaient d'un côté un épisode de la vie du Christ, et de l'autre un épisode de la vie de Moïse. Eh bien, l'épisode de la vie de Moïse qui était représenté était la naissance et la découverte de Moïse. Vous savez, Moïse a été mis sur l'eau, etc. Hein ? Eh bien, c'était représenté dans un panneau qui était là, dans la partie gauche de ce qui est aujourd'hui le jugement dernier. Mais quand Michel-Ange a fait son jugement dernier, ben, il a détruit et recouvert, si j'ose dire, les restes de la peinture qui se trouvait là. D'accord ? Donc aujourd'hui, cette peinture naissance et découverte de Moïse, qui était due à Pérugin, on en a parlé de Pérugin tout à l'heure, hein, elle est détruite parce qu'elle était à la place de ça. Ok ? Continuons à voir les peintures qui continuent là, sur la gauche, d'accord ? Alors après, il y a bel et bien ceci. Alors ça, c'est une œuvre de Pérugin. Je ne vais pas montrer toutes les œuvres. Hein. C'est une œuvre de Pérugin, hein, qui représente Moïse en Égypte. Hein. C'est un côté pourtant très Botticelli, ça aussi. Hein. Eh bien, ce n'est pas Botticelli, c'est Pérugin. Hein.
Mais comme ça. Ils se sont connus, le Pérugin et...
Alors, ils ont travaillé exactement au même moment, là. Hein. Donc, voilà.
Les influences, oui.
Ensuite, il y a une œuvre, là vous aviez tout à fait raison, de Botticelli, qui représente des épisodes de la vie de Moïse. On l'a vu, le buisson ardent, Moïse et les filles de Jéthro, vous l'avez bien reconnu, c'est donc l'œuvre qui suit. Ensuite, une autre œuvre, vous l'aviez bien reconnue, qui est le passage de la mer Rouge. C'est d'un artiste, alors là, beaucoup moins connu, qui s'appelle Baggio d'Antonio, et vous aviez bien vu que c'était très archaïsant, hein, même à côté de Pérugin et Botticelli. Hein, on est là devant vraiment quelque chose de très, très archaïque. D'ailleurs, Baggio d'Antonio n'a fait que cette œuvre-là. Bon, je pense que c'était suffisant, si j'ose dire. Après, alors il y a une œuvre très Botticellesque, mais qui n'est pas de Botticelli, parce qu'elle est de Cosimo Rosselli. Certes, un artiste florentin proche de Botticelli. Et c'est vrai que la figure de droite, cette femme, fait vraiment beaucoup pour conseiller à Botticelli. Mais ce n'est pas Botticelli. Et alors, vous connaissez là, hein, la remise des tables de la loi et la suite, et le veau d'or, etc. Ici, je ne voulais pas passer, c'est une autre œuvre de Botticelli, très botticellienne, hein, pour le coup, et qui présente un épisode pas très connu, c'est pour ça que je ne voulais pas passer, parce que c'était très compliqué, la punition de Corée, Danton et Abiram, qui sont en fait trois prêtres juifs qui s'étaient opposés à Moïse, et en fait, Moïse les a voués au châtiment, si j'ose dire, la terre s'est ouverte, ils ont été avec leur famille engloutis, et ils se sont consumés. Hein, voilà. Donc c'est l'opposition de Moïse et de ses trois félons. Vous voyez dans le fond la représentation d'un arc romain nouveau, hein, c'est l'arc de Constantin d'ailleurs, hein, on le reconnaît bien. Hein, voilà. Une autre œuvre que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure, parce que c'est un peu compliqué, qui est de Luca Signorelli. Qu'est-ce qu'il a fait, Luca Signorelli? Voilà, vous rappelez, la résurrection de la chair. C'est lui, c'est le même. Hein. D'ailleurs, le personnage que vous avez là, vous vous rappelez la résurrection de la chair. Hein. Là, c'est plus habillé que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, et donc ça, c'est un épisode du testament devant et dans le fond de la mort de Moïse. C'est la fin de sa vie. Et puis alors, après, parce que je vous rappelle que là, on est à l'hôtel, hein, et on va du côté de l'entrée, vous connaissez le jubé. Là, juste au-dessus de la porte, il y a un autre panneau. Ce panneau avait été à l'origine peint par Matteo da Lecce, par Luca Signorelli, pardonnez-moi, et représentait le différent au niveau du corps de Moïse. Le problème, c'est qu'au milieu du XVIe siècle, le linteau de la porte s'est cassé, et ce mur s'est plus ou moins écroulé, si vous voulez. Ce qui fait que la peinture de Signorelli qui était là et qui poursuivait la peinture de Signorelli voisine a été détruite. Alors bien plus tard, à l'extrême fin du XVIe siècle, on a demandé à Matteo da Lecce de repeindre le même thème, c'est-à-dire le différent autour de la mort de Moïse, là, une fois qu'on a réparé le linteau. D'accord ? Donc l'œuvre de Signorelli a disparu. Alors maintenant, on va regarder l'autre mur, c'est-à-dire, pour terminer, le mur, j'ai mis mur sud. Non, c'est le mur nord, je me suis trompé. Là, je crois. Là, c'est le mur nord, pardonnez-moi. Le mur sud, c'était l'autre. Hein. Ça, c'est le mur nord, pardonnez-moi. Mais avec cette chapelle qui est mal orientée, on se s'en met les pinceaux. Donc ça, c'est le mur nord, puisque l'ouest est là, encore une fois. Hein. Donc on va regarder ce mur-là, qui va de l'ouest à l'est. C'est bien le mur nord, et que vous voyez là. Et on va aller depuis le début jusqu'à la fin, depuis l'hôtel jusqu'à l'entrée. On est d'accord? Encore une fois, mur sud, c'est faux, c'est mur nord. Alors, il y avait là, ici, à l'origine, à la place de la partie droite de cette composition de Michel-Ange, qui a recouvert donc la composition postérieure, il y avait une autre composition du Pérugin qui représentait la nativité. Je rappelle que là, il y avait la naissance de Moïse, hein, et là, il y avait la nativité du Christ. Normal. D'accord. Le pendant, ça a été détruit, encore une fois, quand Michel-Ange a fait cette peinture. Ensuite, je crois que vous l'aviez dit tout à l'heure, hein, vous aviez dit « Oh, on dirait Raphaël, Pérugin ben, ». On dirait tellement Pérugin que c'est Pérugin. Et là, c'est un Pérugin vraiment bien Pérugin. Hein. On voit comment dans ses peintures, Pérugin passe d'une sorte de style à la Botticelli, un style beaucoup plus propre. Hein. Et c'est le baptême du Christ hein, de Perugine. Donc vous aviez tout à fait raison. Ensuite, il y a cette scène de Botticelli, vous l'aviez bien vue, la tentation du Christ. Vous aviez tout à fait raison, une œuvre vraiment très emblématique. Et puis une œuvre de Domenico Ghirlandaio. On a vu quoi, lui?
Ah oui, on a vu le monsieur avec le gros nez.
Avec le gros nez, vous rappelez monsieur avec le gros nez la dernière fois avec le gosse. Ouais, Domenico Ghirlandaio, c'est lui qui a lié la vocation des apôtres. D'accord? Ensuite, une œuvre que je ne vous ai pas montrée tout à l'heure, qui est Le Sermon sur la montagne, de Cosimo Rosselli, un peintre dont on a vu déjà une œuvre il y a quelques instants. Ah oui, le Christ au milieu, c'est Le Sermon sur la montagne. Ensuite, vous aviez raison, une œuvre du Pérugin à la remise des clés, vous aviez bien vu, hein, c'est bel et bien Pérugin. Et vous aviez raison, Raphaël avait a fait quelque chose de tout à fait équivalent que ici Pérugin a repris. Donc Pérugin a repris un thème de Raphaël.
Il y a un personnage qui nous regarde singulièrement. Le 1, 2, 3, 4, 5e à partir de la droite.
Celui-là.
Noir, là, oui.
Ouais, celui-là aussi d'ailleurs. Hein.
Ah bon?
Alors, je ne crois pas que ce soit dans cette œuvre-là qu'il y a un portrait de lui, mais il y a au moins ou deux tableaux de Pérugin. Le Pérugin, c'est autoportrait du. Je ne crois pas que là ce soit lui. Mais vous avez peut-être remarqué, je ne vous l'ai pas dit, mais beaucoup de ces personnages qui sont assis sur scène sont des portraits. Ça ne vous aura pas échappé. Et la scène, vous l'aviez bien vue hein, tout à l'heure, qui est de Cosimo Rosselli, hein, à nouveau. Et puis tout ça se terminait là. Mais avant que le linteau ne cède, hein, par une œuvre de Ghirlandaio, une autre, représentant la résurrection du Christ, mais quand l'œuvre a été détruite par la destruction du NATO, eh bien, on a demandé, après la rénovation, à Heinrich Vandenbroek de réaliser, à la fin du XVIe siècle, hein, la nouvelle résurrection du Christ. Voilà, alors c'est comme ça que je termine cette séance. Je voulais en effet qu'on évoque ça, parce qu'on ne parle jamais de ces peintures-là, importantes, et je trouvais que c'était important de les évoquer, et de ne pas en rester au jugement dernier et aux autres peintures de Michel-Ange. Ben, bravo.